Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de C'est dans la boîte. Aujourd'hui au programme, deux films que nous avions mentionnés dans nos dernières recommandations. Le dernier film de Polanski, La Vénus à la fourrure, et le film de Guillaume Gayenne, Les garçons et Guillaume à table.
C'est dans la boîte.
Alors on commence par le Polanski.
Oui, tout à fait. Donc le dernier film de Roman Polanski intitulé La Vénus à la fourrure est adapté d'une pièce de théâtre qui est elle-même adaptée d'un roman de Leopold von Sacher-Masoch, un journaliste autrichien. Alors La Vénus à la fourrure est donc une pièce de théâtre à l'origine, c'est donc une mise en abîme puisque ça met en relief la façon dont un metteur en scène va perdre finalement la direction d'une audition. Alors je vais demander d'abord à mes coéquipiers, n'est-ce pas, ce qu'ils ont pensé du film.
Oui, bah, t'as dit que c'était une pièce de théâtre, en fait... On est à nouveau dans un huis clos, donc déjà là la situation ça me plaisait dès le départ, parce que j'avais bien aimé Carnage aussi, le dernier film de Roman Polanski, où c'était pareil, hyper théâtral, quatre personnages, deux couples dans un huis clos, et là le face-à-face homme et femme, c'était...
Oui, là c'est même réduit finalement, il y a deux personnages uniquement.
Oui, avec quand même les interventions par téléphone
la petite amie, future femme,
fiancée du metteur en scène. Oui, d'ailleurs, je tiens à indiquer que Roman Polanski semble ici finalement faire référence beaucoup à lui-même en fait, d'autoréférence.
Mathieu Amalric devient son double.
Alors, exactement, et puis par exemple, la veste en velours qui fait penser au bal des vampires, et puis il y a la robe également à Tess, et... Enfin voilà, ce sont des thèmes qui lui sont chers également, qui l'utilisent, sans oublier évidemment que l'actrice principale, Emmanuelle Seigné, est tout de même sa femme. Donc voilà.
Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est le floutage progressif entre en fait la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un metteur en scène qui est là et qui auditionne, comme tu l'as dit, une comédienne. Donc ça, c'est le plan du réel. Et puis un autre plan qui est celui où progressivement la pièce devient en fait la réalité. C'est-à-dire le rapport sadomasochiste.
Il faut préciser qu'il lui donne la réplique pour son audition. Justement.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc le rapport sadomasochiste qui est présent dans le roman et dans la pièce de théâtre que le metteur en scène en attiré, devient progressivement le rapport sadomasochiste qui se met en place dans la réalité entre le metteur en scène et la comédienne. Et donc, dès le début, on a des indices un peu discrets. Enfin, la comédienne qui vient a le même prénom que le personnage de la pièce. Puis, petit à petit, il y a des choses bizarres qui se passent. Elle sort de nulle part une veste en velours qui serait parfaite, en fait, pour jouer le personnage et qui va parfaitement au metteur en scène. Ils se vouvoient d'abord et commencent à se tutoyer progressivement. Il y a une intimité qui se met en place. Après, au bout de 2 heures, ça aboutit à le metteur en scène enchaîné comme sur un bûcher.
Oui, et puis il y a aussi un jeu entre justement la façon dont elle parle quand elle est elle-même, c'est-à-dire l'actrice qui vient auditionner, et elle change radicalement quand elle devient le personnage, et ça aussi, ça introduit un peu
au fur et à mesure du film, cela se perd de plus en plus. On a de plus en plus de mal à distinguer entre les deux voix, justement la voix du personnage et la voix de l'actrice. Et par ailleurs, comme tu dis, ce flou qui progressivement s'installe, se remarque énormément au jeu de va-et-vient entre l'espace de la scène à proprement parler et l'espace du public ou même les coulisses au fur et à mesure complètement transgressées, et également dans le jeu des paroles et des situations, puisqu'il y a tout ce va-et-vient par rapport à la question du café, quand il propose un café dans l'histoire, et en fait à la fin c'est l'actrice qui répond, plus en tant que personnage mais en tant qu'elle-même, et avec un va-et-vient incessant que je trouve intéressant.
D'ailleurs, ce jeu sur les accessoires était assez amusant, j'ai trouvé. On entend le bruit de la tasse, alors que, évidemment, la tasse n'est pas matérialisée.
Elle est invisible, mais on l'entend.
Mais on entend le bruit de la tasse, ou bien le bruit des étoffes aussi.
Oui, donc là, on est dans cet entre-deux où, dans la réalité, il n'y a pas de tasse. Mais dans la fiction, la pièce, il y en a une, et donc on est dans le. Voilà, on est dans
et à propos des détails, justement, il y a des détails qui tuent, qui étaient vraiment très drôles, je trouvais. Par exemple, Emmanuelle Seigné qui colle son chewing-gum sous la table des éclairages. On voit qu'elle s'amuse dans son rôle aussi d'actrice un peu vulgaire, comme ça, qui mâche son chewing-gum avec ses expressions familières. Et du côté de Mathieu Amalric aussi, à la fin, quand il incarne finalement lui-même Wanda, on voit qu'il attendait que ça, en fait. Parce que j'adore quand il enlève ses chaussures, il a les chaussettes rouges déjà qui correspondent bien au personnage.
Personnellement, ce jeu de va-et-vient entre la réalité et la fiction me fait beaucoup penser au genre du fantastique, c'est-à-dire cette forme de bizarrerie qui va progressivement se muer en effet. Froid, puisque ça fait limite peur quand même à certains moments, et notamment à la fin. Et du reste, le thème même de la Vénus rappelle la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, avec, qui est une nouvelle fantastique du 19e siècle, et dans laquelle en fait la Vénus est une statue. Là, on a la référence au tableau dans le film, hein, le tableau du Titien, la Vénus au miroir.
À la fin,
voilà. Et donc, ce genre du fantastique me paraît assez bien collé au film. Hein,
Et puis, elle a aussi un rôle, elle, où quand elle prend le contrôle petit à petit de ce qui se passe sur la scène, et tout comme dans la pièce, et on a l'impression que vraiment elle prend beaucoup de plaisir à jouer ce rôle d'une femme très très puissante finalement.
Ouais. Mais qui reste enrobée de mystère en fait, parce que quand tu parles de fantastique, et je me suis demandé tout le long du film qui elle était vraiment.
On ne sait pas d'où elle tire le scénario,
il y a quelques accessoires,
on dirait qu'elle a
qui sont donnés par exemple sur l'histoire de la gym, puisque à un moment donné elle lui révèle tout un tas d'informations sur sa fiancée.
Il y a
des pistes qui sont données, mais le personnage, je pense que c'est peut-être pas la bonne piste finalement d'aller chercher qui est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est dans la réalité. C'est une sorte d'archétype en fait, ce personnage. Enfin, elle est tout à la fois. Elle est Vénus, elle est la détective envoyée par la femme. Elle est, je pense pas qu'il faille chercher l'ancrage de ce personnage dans la réalité.
Il n'y a pas de réalité vraiment figée, et c'est même pas forcément une référence au réel. D'ailleurs, on reste dans l'espace clos du théâtre. Progressivement, les éléments extérieurs, qui sont principalement la Marie-Cécile, fiancée du metteur en scène, sont évincés. Donc je pense qu'on reste vraiment dans un registre d'irréel.
La météo, parce qu'on a des éléments de tempête.
Oui, mais justement, ça fait penser aux dieux grecs, aux
Minerves. Elle est toute puissante. Elle décide de l'éclairage, de la météo.
Elle est démiurgique. Elle est toute puissante. Au départ, j'avais l'impression qu'en fait, elle est une excellente comédienne, mais également, elle se révèle une spécialiste des éclairages, puis elle devient metteuse en scène. Progressivement, elle absorbe toutes les sphères en fait du monde des métiers du théâtre. Mais comme tu le dis, c'est justement Dieu. D'ailleurs, on a ce passage de la façon dont il appelle Madame à maîtresse, à déesse, et elle-même qui l'enjoint de l'appeler comme telle. Et alors, ce que je trouve très intéressant également, c'est que dans la pièce, le rapport s'inverse à un moment, puisque le rapport sadomasochiste entre les deux personnages bascule du moment où Vanda est la maîtresse, et Séverine, son chien, son valet, qui se mue en l'inverse, puisque
Séverine, en fait, va prendre le rôle.
Oui et non, c'est-à-dire que Séverine, en fait, qui est le personnage masculin dans la pièce, reprend pouvoir, le contrat est brisé, et cette fois, c'est la femme qui doit se soumettre. Sauf que justement, dans le monde réel, entre guillemets, donc avec Thomas le metteur en scène et Vanda l'actrice, eh bien en fait, c'est figé le rapport, puisque justement, il va passer du rôle de Séverine soumise au rôle de Vanda soumise en fait. Donc en fait, ce qui signifie que dans la réalité, il reste le soumis de toute façon, qu'il soit l'homme ou la femme en fait. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, ça fait référence à vraiment ce qu'est le masochisme, c'est-à-dire selon la définition de base, l'idée d'un psychopathe au féminin, puisque à la base le masochiste est une masochiste. Dans la définition, en fait, c'est enlever le phallus, c'est-à-dire le plaisir qu'on peut trouver à se voir éradiquer son phallus. Enfin, c'est la définition de base au 19e siècle. J'ai repris par le docteur Richard von Krafft-Ebing in Psychopathia Sexualis, donc il définit ça comme ça. Je trouvais ça assez intéressant parce que, de fait, du coup, dans la réalité de la mise en scène, la femme garde le pouvoir de bout en bout, alors que dans la pièce, le rapport s'inverse. Au départ, c'est la femme qui a le pouvoir, et à la fin, elle est soumise.
Dans cette version, c'était vraiment très habile.
Je trouvais ça vraiment très, très intéressant, d'où la phrase finale du reste, dont je ne me souviens pas, mais je crois que
et le tout-puissant le fera pas et le livrera aux mains d'une femme.
Voilà. Et finalement, le film, du coup, l'illustre beaucoup mieux que la pièce, paradoxalement.
Alors peut-être juste, on va conclure je pense, mais vous n'avez pas trouvé quand même que ça faisait un peu sketch, la manière dont ça s'ouvrait, ça se fermait? Je sais pas, moi à la fin j'ai trouvé que ça venait très vite la fin, et que...
Non, j'ai trouvé que c'était l'aboutissement logique en fait.
C'est très abouti, mais justement...
Autant le second film dont on va parler, il est très sketch, on peut le dire, autant celui-ci pas du tout.
J'ai trouvé pas une succession de sketchs vraiment, mais juste un sketch en entier, contenu dans le film.
C'est sketch dans la mesure où c'est une pièce de théâtre finalement filmée. Ça, oui, c'est en huis clos avec deux personnages sur scène, etc.
Non, mais le côté où ce qu'on en ressort quand on... Enfin, bon, il y a une réflexion qui est intéressante sur le masochisme. Ça, c'est pas juste... C'est pas gratuit, mais ce qu'on en retient après, en sortant de la salle, j'ai pas trouvé que c'était vraiment...
Ah oui. Non, parce que moi, je trouve que justement, et cette dernière phrase, parce qu'il y a plusieurs rapports sadomasochistes, il y a le comédien et le metteur en scène, il y a Vanda et l'autre, et puis il y a Dieu et l'être humain aussi, en fait. Enfin, je veux dire, le tout-puissant le frappa, c'est vraiment dans le rapport sadomasochiste ultime, en fait, où là, il y a peut-être plus d'échange de rôle possible, en fait. Donc j'ai trouvé que les trois, enfin, il y a une imbrication comme ça de trois niveaux, et puis on arrive finalement au niveau ultime avec cette phrase finale. Mais... Non, ça m'a pas.
Bon.
En tout cas,
en tout cas, un film à voir intéressant.
Oui.
Alors maintenant, on peut peut-être parler du premier film de Guillaume Gallienne, donc Les garçons et Guillaume à table, qui est adapté de son one-man show, puisqu'il vient à la base du théâtre, et qui est inspiré pour une bonne part d'ailleurs de sa propre vie. C'est donc un film sur le sujet original du coming out hétérosexuel. Donc vous avez vu le film, moi malheureusement je n'ai pas pu le voir, mais qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la genèse psychologique, en fait, d'un jeune homme dont la clé, finalement, nous est livrée tout à la fin, puisque l'histoire, enfin, je ne veux pas trop révéler pour ceux qui veulent aller le voir, mais bon, c'est-à-dire qu'en gros, l'histoire, et ça, on le sait depuis le début, c'est un garçon qui s'identifie à sa mère, en fait, qui est très proche de sa mère.
D'ailleurs, il joue le rôle de sa mère aussi.
Exactement, il joue, enfin, Guillaume Gallienne joue les deux rôles, hein, il joue à la fois son rôle, qui est lui-même dédoublé, en quelque sorte, parce qu'à la fin, il se révèle hétérosexuel. Et là, on voit comment il change tout à coup aussi de façon de parler, de façon de bouger, etc. Et puis, il joue le rôle de sa mère, en fait. Voilà. Donc, un garçon qui a un rapport très proche, un peu narcissique, en miroir, comme ça, avec sa mère, et qui doit peu à peu assumer, en fait, son hétérosexualité. Il a été mis dans le rôle de la petite fille, parce que la mère aurait bien aimé avoir une fille, etc. Lui-même, ça lui permet de se distinguer de ses deux frères qui sont des vrais mecs, machin, qui vont faire la fête.
Mais alors, justement, pour moi, c'est un gros problème, ça. C'est-à-dire qu'en fait, à mon sens, il y a deux problématiques dans son histoire. Il y a celle du coming out hétérosexuel, puisque tout le monde le prend pour un homosexuel et finalement, il découvre non seulement que non, mais il veut l'affirmer, mais également la problématique de l'identité dans le sens du genre. Je suis une fille ou je suis un garçon, et à laquelle il doit répondre, parce que plusieurs fois, il le dit, il s'identifie à sa mère, il se présente comme une fille, du coup, il agit aussi comme une fille parce que sa mère aurait voulu avoir une fille. Plusieurs fois, par exemple, il y a cette scène où son père croit entendre sa mère et en fait c'est son fils et là tout d'un coup Guillaume Gallienne, narrateur également dans l'histoire dans le film, explique, il prend conscience tout d'un coup que je suis bien une fille. Il y a également le moment où sa mère lui dit mais il y en a plein qui sont heureux comme ça, en parlant des homosexuels, donc des garçons qui aiment garçons, et lui explique mais enfin c'est pas le problème, je suis une fille donc j'aime un garçon, je suis hétérosexuel. Donc, et à la fin en revanche il affirme le côté je ne suis pas homosexuel, arrêtez de me prendre pour un homosexuel, je suis hétérosexuel. Donc pour moi, il y a vraiment deux problématiques distinctes, celle de « je suis un garçon ou je suis une fille » et celle de « j'aime les garçons ou j'aime les filles ». Et à partir de là, du coup, la question de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité. Et du coup, en fait, il y a deux problématiques distinctes et qui, finalement, sont...
Qui sont étroitement
liées. Qui sont étroitement liées, mais qui, en même temps, mènent à une forme de confusion. Et parfois, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Et voilà, enfin... Je trouvais ça un peu problématique.
Bah, c'est-à-dire que cette confusion, elle vient du fait tout simplement que, voilà, avec le temps, et puis heureusement, on peut dire, cette idée d'association systématique du genre masculin au sexe masculin a été remise en question. Et puis, ça c'est... voilà, donc ça vient de là, finalement, ce dédoublement. Que j'ai un sexe... Enfin, lui, il a un sexe masculin, il a un genre féminin, et petit à petit, il va assumer qu'il a un sexe masculin et un genre masculin, en fait, au sens rationnel du terme. Donc, cette confusion, entre guillemets, elle vient... oui, c'est ça, elle vient de là. Non, mais j'ai... Enfin, un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, avec cette idée très drôle que ça vient d'un one-man show, et donc dans le film, c'est repris, hein, puisqu'il y a des séquences où il est dans le film, il est avec sa mère, avec sa famille, et puis il y a des séquences où on le voit sur scène, en fait, comme s'il était
encadré,
en train...
en fait, par la situation de spectacle.
C'est ça, comme s'il était en train
de faire ça. Moi, ce que j'ai à la fois apprécié, ce qui m'a un petit peu... peut-être agacée, c'est sa façon dont le cliché et n'est pas simplement un traitement, mais également une problématique à proprement parler. Alors le cliché, il le manipule. Par exemple, il y a le cliché sur, j'ai envie de dire, les pays européens. Alors on a le pensionnat anglais, le sanatorium bavarois, on a l'Espagne dansante, etc. Il y a également quand même le cliché sur l'éducation des garçons et des filles. Les garçons proches du père qui vont faire du sport, alors que la fille doit être proche de la mère et elle a des désirs. Également le cliché de l'homosexualité, puisque finalement la seule scène de sexe un peu qu'il a homosexuel, c'est quand même la façon dont il a une sorte de coloscopie, enfin je sais pas exactement, mais dans sa cure thérapeutique là en Bavière. Il le dit lui-même, j'ai été défloré à ce moment-là, donc c'est quand même limite vulgaire. Enfin, c'est pas limite vulgaire, c'est carrément vulgaire. Parfois, j'ai l'impression que son idée de coming out hétérosexuel confine à une forme d'homophobie latente. Je trouve que la manière dont il présente l'homosexualité, dont... Mm-hmm. On sait pas trop s'il a...
Enfin, ça dépend peut-être de la manière dont il le présente, parce que homophobie, rassemble les clichés,
c'est un mot fort.
Dessus,
mais voilà,
si j'ai bien compris,
un cliché. Mais on sait pas trop ce que lui-même pense.
C'est-à-dire
que ça,
c'est le gros ressort du comique, quoi, le cliché. Et là, c'est le côté qui m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que les Allemands, forcément, des espèces de gros bourrins, quand ils serrent la main, on s'évanouit tellement ils serrent la main fort. Le papa de Diane Kruger est un nazi qui, sous la période de l'occupation, a fait des crimes de guerre à Paris, etc. Enfin bon, ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Et donc, du coup, c'est ce côté gros comique d'exagération, il prend un peu sur tous les domaines et aussi sur le domaine de la représentation des sexes, des genres.
Oui, mais après, l'homosexualité est présentée quand même sous d'autres aspects aussi. Par exemple, quand il est dans le pensionnat en Angleterre, il tombe amoureux d'un autre pensionnaire. Et là, c'est vu avec beaucoup plus de tendresse aussi.
Oui, mais alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il dit lui-même que ce n'est pas de l'homosexualité, mais de l'hétérosexualité. Parce qu'à ce moment-là, il est une fille.
Il s'identifie comme fille. Ouais.
Et tout, du coup, on est toujours sur la faille. Hein. On ne sait jamais vraiment ce qu'il est. Moi, ça m'a... Du coup, j'ai trouvé que parfois, ça menait vraiment des confusions, des amalgames. C'était
mais il est dans la confusion lui-même, d'une certaine manière.
Puis d'ailleurs, ça lui échappe complètement. Par exemple, tout le thème de la voix. On voit qu'il en joue parce qu'il appelle la bonne pour changer le menu en faisant passer, pour sa mère, parce qu'il a la voix de sa mère. Mais également, naturellement, il a la voix de sa mère. Il faut se référer aux scènes avec la grand-mère ou avec le père qui, étant de dos, l'entendent derrière et n'entendent donc que la voix. Ils pensent qu'ils ont affaire à la mère et pas au fils. Et on voit que là, ça lui échappe complètement.
C'est devenu sa deuxième identité.
C'est sa deuxième identité. Il est vampirisé. D'ailleurs, les interventions systématiques de la mère, quand il est, elle n'est pas là, en fait, alors que du coup, on la montre dans le film, par exemple dans les séances de psychanalyse et tout, montre à quel point c'est pas la mère qui est intrusive, mais il est vampirisé par elle.
Sous l'emprise totale de sa mère, c'est sûr.
Du coup, je trouve que c'est un film qui m'a fait beaucoup rire parce que également il a du point de vue un peu esthétique un recours à différentes choses. On voit les scènes de one man show à proprement parler, puis dans les scènes de film également beaucoup de scènes comiques diverses et variées avec la manipulation des clichés, mais également des scènes un peu de théâtre de boulevard, qui confine à cela. La parodie de Sissi, mémorable. Le recours à la danse, à la musique. Je trouvais que de ce point de vue-là, du coup, c'était vraiment drôle, mais aussi très émouvant.
Même dans les clichés, il y a aussi les clichés sur les classes sociales, parce qu'il parodie aussi la grande bourgeoisie, et ça aussi, c'est très drôle.
Avec les vacances au Maroc.
Et puis les activités, la chasse, les repas de foie gras,
tout à fait.
Et puis la gestuelle de sa mère, même.
Mais en même temps, du coup, c'est aussi un film très, très émouvant, par ailleurs. Non seulement il y a la fin qui est émouvante, où il rend hommage à sa mère, et en plus là il est vraiment sur scène, c'est plus le film, c'est la réalité du one-man show. D'ailleurs ça fait écho, je crois, au début, où on le voit enlever le masque phare, le phare sur de son visage, donc il se découvre dans toute sa nudité et la crudité de ce qu'il est, mais également émouvant par exemple avec toute la succession de psy qu'il voit et qui sont incompétents, tous plus incompétents les uns que les autres, et incapables de l'aider.
dernier, quand même.
Jusqu'au dernier. Ouais. Jusqu'au dernier.
Il lui dit, qui... vous détestez à ce point, en fait.
Ouais, et puis c'est lui également qui dit, vous parlez à qui ?
Ouais.
Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, du coup, c'est dans le film la seule scène où un personnage extérieur se rend compte qu'en fait, la mère est présente dans un rapport fantasmé et vampirisant à Guillaume. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, c'est également la scène où il est au bord de pleurer.
Il pète un câble émouvant. En fait aussi, hein, où il se met à renverser les tables, casser les choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort là, qu'il faut prendre en compte.
Je trouve que c'était un beau film. Moi, quand j'avais vu la bande-annonce, parfois j'avais été limite choquée. Je voyais qu'en effet, il y avait tellement de clichés que c'était étrange. En même temps, extrêmement drôle. Mmh. C'était en effet hilarant et jouissif. Mmh. Et quand j'ai vu le film, j'ai été déçue dans le sens où je l'ai trouvé beaucoup moins drôle que ce que promettait la bande-annonce. Mmh. Mais en même temps, j'ai été du coup heureusement surprise parce que justement, j'ai trouvé très sensible comme film.
Ouais, ouais. Mmh. Puis quand même, la prestation d'acteur, elle est vraiment impressionnante, hein, je trouve. Et moi, ce qui m'a épatée, enfin, je ne savais pas que c'était possible à ce point, c'est que après la digitalisation, sans doute, dans la post-production, ils arrivent vraiment à créer des images où il y a les deux personnages qui sont là, tous les deux à l'écran, qui se voient, qui se parlent, qui interagissent.
Moi aussi, je pensais que c'était pas possible à ce point-là.
Qui sont joués par le même acteur, quoi. C'est vraiment bluffant, je trouve.
C'était assez impressionnant.
Oui, oui, oui. Voilà, donc finalement, on a bouclé avec Polanski, où à la fin, l'homme se déguise en femme, et puis il y a aussi la confusion un peu entre les sexes et les genres. Et puis là, on retrouve ce sujet.
Ouais, jouer le rôle, mettre un masque.
Oui, tout à fait. Ouais.
Enfin, des sujets qui sont quand même bien propres au cinéma aussi.
Ouais.
Oui, bien sûr. Mais là, du coup, le rapport au théâtre est vraiment flagrant.
Dans les deux.
Et puis également la mise en relief de l'Allemagne comme lieu où on fait des cures thérapeutiques étranges qui virent à des comportements sadomasochistes. Dans les deux films, cela est illustré.
J'ai lu une interview de Guillaume Gallienne où il disait justement à propos d'un sujet qui se prête bien au cinéma qu'au final, sa mère, c'était le premier grand rôle qu'il ait joué et que c'est ça qui lui a donné cet amour du théâtre et du cinéma. Mmh. Et que quand il était tout petit, il se faisait son cinéma et que c'est pour ça qu'il a eu envie aussi de faire des films.
Mmh. D'accord.
Mmh. Donc des situations qui peuvent être aussi plus fécondes que juste des rapports un peu malsains.
Exactement.
Bon, alors peut-être on peut enchaîner sur quelques petites recommandations, soit de films qu'on a vus ou de films qui vont bientôt sortir. Je ne sais pas qui veut commencer.
Oui, moi, ça c'est moins du cinéma art et essai. Je me réjouis vachement d'aller voir Hunger Games, qui sort le 27 novembre au cinéma. Donc la suite des aventures de Katniss Everdeen, cette fois-ci dans le deuxième volet qui s'appelle Catching Fire, l'embrasement en français. Donc d'après les best-sellers de Susan Collins avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal.
Et qui donc sortent cette semaine ?
Ouais, le 27.
Le 27 novembre, oui.
Alors moi peut-être, je voulais juste parler d'un film de Preminger que j'ai vu parce qu'on a parlé de la rétrospective que faisait l'Institut Lumière et que donc j'ai pu aller voir, qui s'appelle L'homme au bras d'or, qui est un film de 1955 qui est tiré du roman de Nelson Hagren sur un dealer en fait, qui sort d'une cure de désintoxication et qui essaye de ne pas replonger, notamment grâce à son talent pour la batterie qu'il a découvert lors de son séjour à l'hôpital. Et donc voilà, c'est le premier film d'Hollywood en fait, à traiter ouvertement du sujet de la drogue. Et le jazz aussi est très, très présent, donc vraiment un beau film. Et puis peut-être une autre recommandation d'un film qui va sortir. Les échos que j'en ai vus avaient l'air plutôt pas mal. Un film géorgien réalisé par Nana Eftimishvili et Simon Gross qui s'appelle Eka et Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne. Et donc dans ce film, ils font le portrait en fait, de deux adolescentes qui vivent à Tbilissi, juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà. Et j'avais vu en fait, cet été un autre film d'une réalisatrice aussi géorgienne qui s'appelle Roussoudan Shkonia. Et le film s'appelait Keep Smiling, sur un concours de beauté en fait. Et qui m'avait vraiment beaucoup plu, qui était vraiment très bien. Donc j'irais bien voir celui-ci.
Alors moi, je voulais juste quand même saluer le grand réalisateur papa des tontons flingueurs, n'est-ce pas, pour n'en citer qu'un, qui est décédé, donc Lautner. Et je voulais également mentionner le fait que mercredi soir, si j'ai bien compris, il y a un reportage, une sorte de rétrospective un peu sur son œuvre, sur France 2. Donc voilà.
Très bien. Bon, donc on se retrouve bientôt pour de nouveaux films et de nouvelles critiques.
You know, this could be a lot more complex. I mean, it's not just, it might not be just such a simple, you know?
What in God's holy name are you blathering about?